Bonjour et bienvenue derrière la main courante, le podcast de Football Campagne. Incroyable, on a réussi à revenir avec un deuxième épisode. On fait le doublé quand personne s'y attend, comme Lilian Thuram. Plus sérieusement, dans ce podcast, on parle de football à travers tous les aspects possibles. Le voyage, les gens, l'alcool, l'histoire, l'alcool et encore l'alcool. Je suis Adrien Picard et j'ai déjà mangé du poulet avec Adebayo Nkinfewa, le joueur le plus fort du monde. Avec Jérémy Roturier, photographe de charme de terrain décrépit, nous sommes Football Campagne. Le site, c'est footballcampagne.com et vous pouvez nous suivre sur Twitter @FC_campagne et sur Instagram @footballcampagne. Cette intro est un peu tarée, mais c'est parce que mon invité est aussi un taré. Il part en éclaireur sur tous les stades d'Europe à la découverte des spécialités locales. Il se met presque nu dans la neige et se fait même parfois virer de stade. Tout ça pour le football. Vous pouvez voir ses reportages sur MRC Sport en préambule des plus grosses rencontres de Premier League, de Champions League et d'Europa League. Encore un désarroi dans ce podcast. Renaud Marco, comment ça va?
Écoute, je suis très content que tu dises que je suis un taré parce que, en fait, dans ma ville où mes amis, en général, m'appellent Renaud le Fou. De fou à taré, il n'y a pas une grande différence, donc ça me va bien. Merci de m'interviewer.
Ça vient d'où ce surnom? Comment tu l'as gagné?
Pas, je pense que depuis que je suis petit, il manque une case où les câbles qui sont pas tous connectés dans ma tête. Mon père dit que j'ai été mis trop longtemps dans un Youpala. Mes parents, ils avaient un truc chez moi, genre une corde suspendue au plafond avec un siège bébé, en fait, si tu veux. Une sorte de corde élastique, ça s'appelait un Youpala. Et puis, je pouvais être dedans et faire des bonds. Et il dit que du coup, en fait, il me laissait toute la journée dedans et que ça a dû me détraquer.
D'accord, très bien.
Et après, de ça, que je me souvienne, j'ai peut-être toujours été un peu farfelu, tu vois, à l'école et tout.
Je vais commencer par la question, j'allais dire, traditionnelle, même si ce n'est que le deuxième podcast. Je voulais te demander ton premier souvenir de football.
Alors oui, on va dire que j'ai peut-être deux catégories de souvenirs, parce qu'il y a celui, tu vois, dans la cour d'école, où... t'as des potes qui tu joues sous le préau, etc. Et je me souviens que j'avais des potes qui étaient fans de Marseille. Et après, j'ai dû vraiment me prendre de passion plutôt fin des années 90, tu vois, quand les Lensois, c'est une épopée. Enfin, d'ailleurs, ça, c'était peut-être début des années 2000. Mais en 2000, je me souviens de l'épopée de Calais en Coupe de France. Et puis après, c'est là que j'ai commencé en fait à aller au stade. J'ai juste pas en commun avec Romain Molina d'ailleurs, qui aime bien les petits clubs. Je sais qu'il en prend souvent sur Football Manager. Moi aussi, je prends toujours des clubs de D5 anglaise ou de D3 suédoise. Et je joue encore en fait avec le Football Manager de l'année 2005. Que j'ai essayé en plus récemment de jouer avec le FM 2020 ou 2021, enfin 2019, je sais pas, le dernier qui est confinement, il y avait eu. En fait, j'ai arrêté au bout de 30 secondes parce qu'il fallait faire son personnage, il fallait choisir des survêtes de l'entraîneur, il fallait l'habiller, j'ai dit allez, ciao. Je retourne à ma bonne vieille version. Donc, les premiers souvenirs, c'est mes potes en primaire qui jouent au foot, qui me parlent de l'OM, qui a gagné une Coupe d'Europe. Oui, entre-temps, après, je suis tombé amoureux du Milan AC. J'adorais ce maillot rouge et noir avec écrit Mota et j'avais un oncle qui était Milan et qui me l'avait ramené. Et Calais, Coupe de France. Moi, j'ai toujours été derrière les petits clubs en général, plutôt amoureux du plus petit que du plus gros budget. Puis après, j'ai commencé à aller au stade et je viens de Grenoble, j'ai grandi à Grenoble. Donc, j'ai suivi le GF 38 et par la suite, je suis devenu commentateur en fait sur la radio locale de France Bleu, donc la France Bleu Isère. J'ai commenté pendant de longues années Grenoble.
Quand tu as commencé à aller au stade, Grenoble était à quel niveau à ce moment-là?
La première fois que je suis allé au stade, Grenoble était en CFA, donc quatrième niveau national, et c'était pour la montée en national. Ils avaient gagné contre 7 au stade des Diguières, qu'on partageait avec le rugby. Et je me souviens, j'avais gardé un exemplaire du journal local où il y avait une photo de toute la foule qui allait sur le terrain en fin de match. C'était la montée et je m'étais reconnu, quoi. J'avais un jogging bleu fluo et on me voyait du coup sur la pelouse et je l'ai gardé longtemps ce journal. Et après, j'ai commencé à faire quelques déplacements, bosser pour un site de supporters du GF 38. Il m'a un dictaphone, j'allais interviewer des joueurs à l'entraînement et je retapais toute l'interview, ça me prenait des plombes. Et puis après, de fil en aiguille. Et je suis passé un peu de l'autre côté, puisque j'ai appelé des radios pour savoir qui avait besoin de quoi. J'ai commencé à faire ça en téléphonique, et puis toujours, histoire toujours du mec qui n'est pas là, et puis que tu remplaces, et puis finalement, ça continue. Entre temps, il y a eu quelques bouts d'essai ailleurs, mais ça s'est fait comme ça, quoi, on va dire.
Mais à la base, tu voulais être. C'était genre. C'est la passion pour le football et Grenoble qui t'a amené à faire ça, ou tu voulais faire journaliste avant?
Alors, comme Romain Molina, je n'ai pas fait d'école de journaliste. Et c'est plutôt mes potes qui m'ont poussé à faire ça parce que quand on jouait à FIFA, je commentais toujours, en fait. On éteignait les commentaires des mecs et c'était moi qui commentais à la place. C'est pas vraiment d'où ça m'est venu. Petit, j'avais dû entendre des commentaires sur des radios, mais tu vois, j'ai pas vraiment de commentateur en tête comme référence, comme ça. Et du coup, je me mettais à commenter les matchs de foot sur PlayStation et mes potes me disaient « Ouais, mais tu devrais vraiment faire ça, on dirait des gars de la radio et tout. » Et un jour, je suis donc allé à l'entraînement du GF38 et puis je suis allé voir le mec qui commentait les matchs pour la radio locale. Puis je lui dis « Ouais, je voudrais faire ça comme toi et tout. » Il me dit « Bah, ok, ouais, tu vas commencer par le standard téléphonique. » J'ai fait un an de standard téléphonique. Après, je suis parti sur une radio locale où j'ai commenté des matchs en CFA2. C'était n'importe quoi. Je courais derrière les arbitres de touche avec un téléphone portable collé à l'oreille pour commenter donc des matchs de 5e division sur une petite radio locale bénévole. Et puis après, France Bleu Isère m'a rappelé en me disant « Ouais, bah, on a vu ce que tu faisais. Est-ce que tu veux faire ça chez nous, mais en un peu plus pro ?» J'ai dit « Ben banco. » Puis bon, voilà, après...
Et en CFA2, c'était quel club que tu faisais? C'était la réserve de Grenoble ou c'était d'autres clubs de la région, en fait?
En CFA2, quand j'ai commencé à commenter, c'était la ville d'Échirolle, qui est la banlieue de Grenoble. Et en fait, je bossais pour cette petite radio associative qui s'appelait News FM. Et on avait mis en place... en fait, on voulait commenter à l'époque les matchs de Grenoble, mais il y avait des histoires de cartes de presse, il fallait être journaliste, je sais pas quoi. Du coup, on a dit, bon, on va commenter les matchs du club qui est au plus haut échelon, mais qui n'est pas Grenoble et qui reste quand même dans la communauté d'agglomération, quoi, dans le bassin. Et c'était Échirolle. Et du coup, c'est mes premiers souvenirs. Et c'était aussi, je faisais les déplacements avec les joueurs, en fait, c'est-à-dire que je partais avec l'équipe. Il y avait d'ailleurs le frère d'Olivier Giroud, Romain Giroud, qui jouait dans ce club. Je me souviens, il faisait des études de diététicien. Et il me lisait ses bouquins où il me disait « Ouais, tu vois, si tu bois de l'alcool, eh ben, il faut faire une heure de jogging le lendemain parce qu'il n'y a vraiment que les sportifs de haut niveau qui peuvent brûler les sucres ou les graisses dans l'alcool. Si tu fais du sport de haut niveau, c'est mauvais pour ta santé. » Enfin voilà, je me souviens qu'il me disait tout ce qu'il avait appris, quoi, parce qu'on faisait on allait de Grenoble au Puy-en-Velay, quoi. Donc on se tapait des 5-6 heures de bus. Et en arrivant là-bas, je sortais mon téléphone portable. Je sais même pas si j'en avais pas deux, parce qu'à l'époque, ça devait pas tenir bien longtemps les batteries. Et je courais, mais tu veux, je faisais des allers-retours d'un poteau de corner à l'autre. Dans le match, c'est des matchs de 5e division et c'était en 2000, ouais, je te dis ça, c'était en 2002, donc il y a 18 ans. Même si maintenant tu as plein de radios locales ou sur internet, tu as plein de gars qui commentent, à l'époque, bon, je veux pas faire genre j'étais le premier, mais en tout cas, l'émission qui avait créé ma radio, quand tu es à un match de 5e division, quand tu allais j'allais à Guignon, à Moulins, le mec, ils hallucinaient de voir un type qui courait derrière l'arbitre avec un téléphone portable et qui commentait la rencontre, enfin, surtout qu'en plus, tu veux, c'était en quasi-intégralité, mais toutes les 10 minutes, je rendais l'antenne. Et entre, par exemple, de la 10e à la 15e, eh ben, j'encourageais le club d'Échirolles, quoi. Donc, supporters locaux me disaient, mais c'est qui ce taré, quoi? C'était vraiment des bons souvenirs, quoi. Parfois, tu avais des joueurs qui sortaient du banc de touche, parce que quand tu joues dans des clubs de l'Allier ou du Jura au mois de janvier, décembre, je peux te dire que tu te les pèles. Et le mec, il venait, il me posait sa parka sur les épaules pour pas que j'ai froid, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment les tout premiers commentaires que j'ai fait. Et puis après, un jour, on a pu commenter Grenoble et puis sur la radio locale. Après, pas pour passer professionnel, mais pour faire ça à un niveau, on va dire, amateur, j'ai dû aller sur France Bleu Isère.
Mais t'avais quel âge quand t'as commencé du coup à News FM?
Quand j'ai commencé à News FM, j'avais 20 ans, presque, 19-20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36.
D'accord.
J'ai fait 4-5 ans sur News FM, donc une radio associative où je commentais les matchs d'Échirolles, donc 5e division à courir avec le téléphone portable derrière l'arbitre. Et après, on a commenté les matchs de Grenoble. Et puis en 2005, j'ai commencé sur France Bleu Isère jusqu'en 2011. Et puis après, à partir de 2010, en parallèle, j'avais déjà commencé à aller à Paris. Et en 2011, quand le club de Grenoble a déposé le bilan, j'ai arrêté de commenter les matchs de foot. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ton intro, tu disais que j'ai souvent viré le stade. Enfin, il m'est arrivé de me faire virer le stade pendant mes reportages sur RMC Sport. Et je me souviens que j'avais commenté un match de foot en Corse, à Ajaccio, sur France Bleu Isère, Ajaccio-Grenoble, et Grenoble avait gagné. Et il y avait des mecs en tribune qui étaient venus pour me casser la tête, quoi. Des Corses qui n'étaient pas contents, parce que pareil, quand je commentais, quand je commentais, j'étais un peu trop emporté, et puis quand je commentais pas, il m'arrivait d'être en tribune et puis de dire « Allez les gars !» Enfin, d'encourager mon équipe. Donc c'est sûr qu'en Corse, c'est bien. Ils ont un peu le sang chaud, on va dire, en caricature, mais en plus, t'as moins de supporters qui font les déplacements quand c'est loin, qui vont prendre l'avion. Quand ce supporter-là, on va dire que j'étais commentateur supporter, il vient de la tribune présidentielle, t'es tout seul, quoi. Parce qu'autant les 50 qui ont fait le déplacement, ils sont tous en train d'encourager, tu vas rien leur dire. Mais quand t'as un mec au milieu de 100 autres qui dit « Allez Grenoble !» tu vois, ça passait mal. Mais du coup, il y a un Corse qui m'a défendu ce jour-là, qui leur a dit « Les gars, vous avez un peu la fermée, vous aimeriez bien avoir un commentateur comme lui. Hein. » Et du coup, en fait, ce mec, il m'a ramené à l'hôtel. Un vieux Corse qui habitait sur les hauteurs d'Ajaccio. Le soir, il m'a ramené dans son pick-up à l'arrière. Et on s'est lié d'amitié. Et je l'ai revu deux, trois fois quelques étés quand je suis allé en Corse. Après, je lui ai toujours passé le bonjour ou je lui ai envoyé une carte postale. Il s'appelle Ange Meucci. Voilà. Il habite à Santa Maria Sique.
Un prénom typiquement corse, Ange. C'est génial.
Et sa femme, quand j'allais chez lui, elle l'appelait Anjou.
Ah oui, ok.
Et du coup, en fait, il s'est trouvé qu'en plus, après, je suis souvent retourné à Ajaccio pour commenter les matchs de Grenoble. Ah ouais, je me souviens d'une partie de cartes avec lui où on allait voir des mecs. Et puis, bref, il me posait un pistolet. Il me disait, bon, tiens, ça va peut-être te servir ce soir pendant la partie. Je suis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais, franchement, j'ai fait des pures rencontres, j'ai vécu des pures émotions. Et souvent, le journaliste sportif, tu sais, c'est pas qu'il est mal vu, mais il est en tout cas vu un peu plus comme un bonnet que le journaliste politique. Et moi, je trouve que les émotions, tout à l'heure, quand tu me demandais ouais, pourquoi j'en étais venu à ça, est-ce que je voulais être journaliste, etc., moi, c'est vraiment les émotions, quoi. Le pic, enfin, tous les pics que tu peux avoir dans une seule rencontre. Tu passes par crier, par jouir, par pleurer. Je me souviens avoir pleuré en commentant des matchs, quoi. De pleurer de joie à une rencontre à Châteauroux en Coupe de France. D'ailleurs, j'étais étudiant à ce moment-là, je rentrais la nuit, quoi, pour pas. Mes parents étaient assez. Même si je suis un peu farfelu, j'essayais quand même d'être assidu à l'école et je commentais la nuit à Châteauroux, quoi, enfin le soir à Châteauroux, et je rentrais dans la nuit pour être le lendemain à la fac, quoi. Et je me souviens qu'on était mené 2-0 et on gagne 3-2 en match de Coupe de France. Il y a Ghislain Gimbert, un mec que j'appelais le guépard à Grenoble. Qui marque, et à l'antenne j'étais à la limite de faire un arrêt cardiaque, quoi. Et je chouinais, quoi, tellement j'étais content de la remontée du score. Puis la Coupe de France, c'est vraiment un truc qui me passionne, parce que les matchs à élimination directe, ça procure
un stress
que t'as pas en championnat. Quand j'étais rentré le lendemain à la fac, et tous les gars de la classe qui me faisaient « Ghislain Gimbert !» Enfin, les mecs me paroliaient, quoi. C'était gentiment, hein, tu vois, mais voilà, ce que j'aime dans le foot, c'est les émotions. Et si tu veux, d'ailleurs, quand je fais un reportage sur RMC, même si je me souviens de rien à la fin, parce que je suis toujours focus sur ce que je filme, etc., mais je suis plus passionné par ce que je vois en tribune que le jeu en lui-même. Tu vois, quand on me demande les souvenirs que j'ai avec le GF38, parce que j'ai commenté la montée, enfin, des grands moments, tu vois, des moments qui arrivent dans des petits clubs comme ça, ça arrive une fois tous les, bon, en l'occurrence, nous, c'est arrivé une fois sur les 50 dernières années, donc, on va dire une fois tous les 10-20 ans, tu vois, Strasbourg, quand ils sont descendus, ils sont remontés. Donc, c'est des moments que tu n'as pas, pas tous les jours. Et quand on me demande mes souvenirs sur mes commentaires de Grenoble, bah, je pense qu'il y a des moments d'émotion, quoi. Alors, bien sûr, j'ai un ou deux buts qui me viennent en tête, tu vois, des buts des 25 mètres, des super frappes, etc. Mais sinon, je me souviens d'un stade qui siffle, tu vois, parce qu'il fallait qu'on gagne pour être surmonté et on n'arrivait pas, on faisait match nul et l'arbitre nous avait refusé un pénalty, tu vois. Donc, voilà, je me souviens surtout de trucs par rapport aux supporters ou de liens d'amitié avec des joueurs, mais dans le jeu pur, on va dire que c'est pas ce qui me motive, quoi. Et d'ailleurs, les reportages que je fais sur RMC Sport, ben, ça se finit par du foot, mais il y a tout ce qui va autour avant, tu vois, la découverte de la ville, des habitants. Bon, maintenant, je fais en plus un peu les boîtes de nuit pour faire rigoler. Après, le lendemain, c'est les fans, un petit moment avec un joueur. Après, tu as le stade, etc. Puis, dans le stade, eux, dans le reportage, ils mettent des actions. Mais moi, je suis surtout là pour... pour filmer l'ambiance, quoi. Et c'est marrant parce que je sais pas comment je me débrouille, mais je me retrouve toujours assis à côté de supporters qui sont super cool. Enfin, c'était pas le cas à Crystal Palace dernièrement, mais en général, je tombe toujours à côté d'un mec qui est ok pour répondre à mes questions, tu vois, alors que je lui braque un téléphone dessus, quoi. Le mec, je lui explique même pas, quoi, tu vois. J'ai cette chance, quoi, de croiser des bonnes personnes dans mes reportages.
On va revenir vite fait un peu avant de repartir peut-être en Angleterre un peu plus tard et tout ça. Je voulais revenir un peu sur la France et notamment sur Grenoble et tout ce que tu as fait. J'ai quand même j'ai regardé, j'ai un peu préparé quand même ce podcast et donc tu sais qu'il y a des compilations de tes commentaires sur YouTube qui se baladent.
C'est marrant parce que du coup il y a quelques jours, j'ai fait un live avec le GF38. Et du coup, après, on m'a envoyé ces liens sur YouTube qui tournaient, des compilations de supporters. Moi, je m'étais gardé des extraits sur un CD, tu vois, des matchs que j'ai commentés dans la montée. Ouais. Ouais, non, je ne savais même pas. Je suis vraiment nul sur Internet. Moi, je dis toujours que je peux envoyer un email avec une pièce jointe, mais après, je sais pas faire, tu vois. Je voudrais même monter une chaîne YouTube pour raconter l'envers des reportages et ça me fait tellement flipper. Mais bravo et merci pour toute ta préparation parce que je sais en tant que journaliste ce que ça demande. Et si t'es allé trifouiller sur Internet pour trouver des extraits de je ne sais quand ou trouver des reportages, je sais que ça t'a demandé du temps. Donc
j'ai trouvé un reportage. Je pense que du coup c'était avec News FM si je compte bien on te voit en train de commenter dans l'ancien stade de Grenoble. C'est le stade, c'est comment tu on dit, c'est Lediger, Lediger,
le stade Lediger. Et alors ça, ce reportage, c'est peut-être contre Guignon, non?
C'est possible, ouais, quelque chose comme ça. Mais moi, ce que je voulais te demander justement, c'est parce que du coup moi en tant qu'amateur de football et tout ça, je connais le Grenoble à travers la Ligue 1 et à travers le stade des Alpes du coup. Et je voulais savoir un peu c'était quoi l'ambiance dans le stade au stade Lediger. C'était quel genre de stade et c'était quel genre d'ambiance aussi, parce qu'il y avait du monde, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu. J'aurais bien aimé savoir ça aussi un peu sur Grenoble.
Je surkiffe que tu me poses cette question parce qu'en fait ça me fait remonter à la mémoire que quand je commentais au stade Lediger, je commentais pas dans la tribune de presse. Parce que ce reportage, en fait, on me voit devant, sur des sortes de bureaux qui sont installés. Et en fait, les autres journalistes, ils sont derrière, en loge. Il y avait une sorte de loge pour la tribune pour les journalistes, une cabine, quoi. Et en fait, je faisais tellement de bruit quand je commentais, surtout que je commentais souvent intégral, que les autres journalistes d'Europe 1, RTL, tu vois, bah, ça les gavait, en fait, quand ils prenaient l'antenne, parce qu'on m'entendait toujours derrière. Et du coup, ils m'avaient fait comprendre que c'était mieux que je reste dehors. Et du coup, en plus, j'étais à proximité des autres supporters qui étaient dans cette tribune, quoi. Puis c'est des mecs que tu revois toutes les deux semaines, puisque c'est des gars qui ont des abonnements, tu vois, qui sont là à chaque fois à leur place. Le stade Lediger, ouais, mais il y avait avant le stade municipal aussi à Grenoble où je suis allé, qui était à la place du stade des Alpes. Mais c'est vraiment, du coup, mes premiers souvenirs de foot quand tu me demandais tout à l'heure, parce que j'y suis allé en tant que supporter. Il y avait une tribune qui s'appelle la tribune tennis où t'avais pas de toit. Pour 19 euros, tu pouvais voir les 19 matchs de l'année, quoi. T'avais pas de toit et inutile de dire qu'entre novembre et mars à Grenoble, il pleut ou il neige. Il y avait une autre tribune où t'avais des piliers tout le long. Franchement, tu voyais, enfin ouais, la vue était complètement hachée. Et t'avais une autre derrière les buts qui s'appelait la tribune Finet, de mémoire. Et c'était là où il y avait les premiers supporters, les Red Chaos ou les Delphys, de ce stade qui était un stade qui était pas loin de chez moi et où j'allais toujours en fait à vélo pour commenter. J'avais tout mon matos de micro, etc., de batterie, des trucs pour régler le son que je mettais sur mon porte-bagages. J'arrivais au stade en vélo, tu vois, les gens me regardaient et je me mettais même mon vélo dans le stade, si tu veux. Après, voilà, c'est pas le Parc des Princes, donc t'as plus de facilité à faire n'importe quoi. Mais c'est un stade en plus qu'on a aussi on va dire, on a un peu alterné avec le rugby. À Grenoble, c'était compliqué parce qu'il y a eu un moment où les deux clubs voulaient des stades différents, etc. Mais ouais, c'est un stade où j'ai commenté beaucoup de matchs de Ligue 2, dont le premier but d'Olivier Giroud, qu'il a marqué avec Grenoble face au Havre. C'était Mandanda qui était dans les cages. Et quand tu me disais, ouais, t'as connu Grenoble, toi, avec la Ligue 1, ben, c'est clair que moi, souvent, quand on me demande dans le foot mes meilleurs souvenirs, alors bien sûr, tu vois, là, j'ai été au Kosovo, où j'ai vraiment tapé des barres en Écosse, et c'était extraordinaire, mais ben, pour moi, Grenoble, c'est la Ligue 2, quoi. Et moi, je kiffe à commenter un Guignon GF38, tu vois, un Laval-Grenoble. Je suis allé au stade Francis-Lebasserre. Je kiffe les matchs de Ligue 2, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué, quoi. J'ai commenté de façon plus longtemps en Ligue 2 qu'en Ligue 1. En Ligue 1, j'ai commenté deux saisons. Et j'ai dû en faire 8 en 8 ans en Ligue 2. Donc, moi, c'est le foot que je kiffe. Le public que je kiffe. Alors, je dis pas que les publics de Ligue 1, ils sont moins bien, mais plus t'avances aujourd'hui dans le monde du foot, plus il y a d'argent, et plus il y a d'argent, plus c'est aseptisé. Après, c'est clair que je vis des moments uniques, tu vois, quand je croise un supporter à Manchester City qui me donne une place et qu'il a en plus, le mec c'est un des sponsors du club, et je me retrouve derrière le tunnel vitré des joueurs, c'est des places à 2500 balles, enfin derrière quand les joueurs rentrent sur le terrain à City, c'est un tunnel vitré, t'as des gens qui mangent, et j'ai pu être là-bas. Ouais, c'est des moments qui n'ont pas de prix. Et pour moi, je les mets vraiment au même niveau qu'un Guingamp GF38, parce que moi, quand on me disait, ouais, tu vas commenter au Roudourou, et putain, c'était le bonheur, tu vois.
Allez, il faut centrer. Oui, Dimitrievich, trop de souris. Le centre, et ce sera un corner. Allez, c'est la fin. Le corner de la dernière chance. Un but partout. Il faut revenir. Il faut nous faire le même scénario que face à Nantes. C'est fini. On a dépassé le temps additionnel. Le corner de la droite vers la gauche. Le corner sortant. La tête de but. Oui.
Ben, justement, parce que quand on discutait pour préparer le podcast, tu me disais que tu avais fait à peu près tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 pendant des années. Et je voulais savoir, c'est quel stade qui t'a laissé un souvenir vraiment important?
Alors, le seul stade où j'ai pas commenté, c'est le stade Bollaert. Si je ne cite pas Lens, il ne faut pas que les gens se sentent offensés parce que j'y ai pas été. Donc voilà. Un stade qui m'aurait laissé un souvenir. Je réfléchis 30 secondes, hein, parce qu'il faut que je passe en revue les.
Même d'ailleurs dans les matchs que tu as des chiroles que tu aurais pu faire aussi. Enfin voilà, des stades. Parce que en fait, c'est quelque chose. Je te pose la question parce que je trouve que, tu vois. On a parlé d'Angleterre juste avant, et quand on aime le foot, il est de commune, c'est assez commun de dire, ah oui, l'Angleterre, les titres division, il y a plein de monde, tout ça, enfin de parler de la culture football en Angleterre, mais je pense qu'il y a aussi une culture football en France qui est beaucoup plus, qui est peut-être moins importante en tout cas qu'en Angleterre, ça c'est évident. Peut-être moins mise en avant aussi dans les médias, tout ça, mais du coup, voilà, c'est pour ça que je pose cette question, parce que c'est des choses qu'on connaît pas assez bien, en fait, je trouve.
Non, en plus, je vais réfléchir là pour le stade, parce que bon, après, évidemment, si tu veux, je vais dire Grenoble, parce que c'est le stade où j'ai le plus commenté, donc j'ai le plus de souvenirs. Faut que je trouve un stade entre guillemets adversaire. Mais il y a un truc qui est vraiment différent entre l'Angleterre et la France, c'est que bah, toi, tu y es souvent, tu as pu le voir, les chants en Angleterre, tu as vu, ils ne durent vraiment pas longtemps. C'est du « come on, come on, come on » ou « Mahrez, Mahrez » et après c'est terminé. Moi, j'ai à peine le temps de déclencher mon téléphone que le chant est terminé. Alors, ouais, ok, on dit qu'il y a une passion en Angleterre, mais en France, mais les chants des ultras ou les chants en tribune, bah, ça dure minimum 45 secondes, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment vraiment ce qui me surprend, quoi. Ça a été…
Après, juste pour atténuer un peu, c'est aussi parce que t'es en première ligue que t'as très peu de... Enfin, que je pense que...
Oui, parce que tu veux dire que les fanbases, enfin, les clubs de fans, il y en a eu de moins en moins.
C'est des trucs, en fait, moi, je connais des trucs un peu plus longs, si tu veux. Bah, notamment, moi qui suis Tottenham... je vais connaître un peu, ouais, When the Spurs go marching in, des trucs comme ça, ou We Are the Tottenham Spurs from the Lane, qui sont des trucs un peu plus longs et qui sont justement dans les 40-45 secondes, on va dire, mais qui sont pas les plus chantés. À un moment, ça va être. Ouais, les gens, ils vont dire. Enfin, c'est sûr qu'ils vont sur les chants les plus rapides, qui sont Common New Spurs ou Yid Army, que je vais pas traduire parce que c'est pas un très bon terme, mais bref, voilà. Mais ça s'arrête. Ouais, c'est, ils vont souvent sur les chants les plus longs, et après, souvent aussi, bah, je pense que c'est quelque chose que tu vois un peu partout, même en Angleterre, pour avoir fait vraiment toutes les divisions. T'as quelques chants un peu longs, mais ouais, souvent, en fait, ils vont directement au plus facile, comme un New Reds.
Ouais, tu vois, souvent les gens, quand ils me demandent, je dis ben, écoute, il y a eu une chanson au début, mais après, les chants des supporters, c'est pas des chants, c'est plutôt des encouragements, quoi. Puisque tu vas à West Ham, t'as la chanson des Bubbles au début, mais tu vois, quand ils rentrent sur le terrain.
Ouais, ouais. Tous les clubs ont cette chanson, leur chanson traditionnelle, voilà, qui chante au début.
Mais après, finalement, t'as aucun chant à un moment pendant le match qui ne dépasse. Alors, sauf si t'as un 4-0, puis qu'à un moment, tout le monde, je sais pas, se met à chanter un hymne. Mais ouais, t'as raison, ils vont plutôt sur des trucs courts. Écoute, alors, le stade qui m'aurait marqué en France, et c'est vraiment une question difficile parce que chacun a ses particularités. Et puis, il y a des stades, tu vois, comme Montpellier que j'ai aimé. Et parce qu'il y avait une belle ambiance et parce que aussi on a gagné là-bas. Moi, Sedan, bah, quand j'ai commenté en Ligue 2, il y avait encore des beaux restes de Sedan et j'étais content, tu vois, d'aller dans un stade comme ça, même si, tu vois, Sedan, c'est pas une grande ville, mais quand je te dis que j'aimais les petits clubs, ben, moi, Sedan, avec plus un défi et tout, c'est les moments aussi que j'aimais dans le foot. Donc, bien sûr, il y a
c'est une vraie ville de foot, Sedan, drone, pour tu vois. Le coup.
Et, mais même à Metz, hein, à Saint-Symphorien, j'ai connu des belles ambiances quand j'ai commenté là-bas. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai pas commenté Emmanuel Adebayor à Metz. Ouais, pour te dire, alors c'était il y a longtemps, mais je suis sûr que.
Faut dire que Metz a une très grande tradition de joueurs africains entre Adebayor.
Ouais, ils ont des Zakidani en plus. Enfin, ouais.
Ouais, ouais, ils ont génération foot au Sénégal notamment qui a ramené Sadio Mané, Koulibaly, tout ça, il me semble d'ailleurs aussi. Koulibaly, oui, je pense Koulibaly aussi. Ouais. Et je sais plus qui est un troisième, j'ai oublié, mais bref, ouais.
Un gars qui est à Watford, non ?
Il me semble. Ah bah, Ismaël Assar était à Metz, enfin, à Metz, ouais, aussi. Bah oui, exactement, oui, Ismaël Assar, ça, c'est le troisième que je cherchais, t'as raison. Enfin, la plupart des joueurs sénégalais qui sont à Metz arrivent de génération foot au Sénégal. D'ailleurs.
Écoutez, j'ai regardé en même temps, il a joué en 2001-2002 et 2002-2003 à Adebayor à Metz, donc ouais, je l'ai commenté.
Ouais. Et après, ouais, il est parti à Monaco très très vite.
J'ai commenté un gars qui... Alors attends, pour te dire, c'était sûrement 2005-2006, mais un gars qui était à Strasbourg. Ah oui, bah Gamero, tu vois. Je me souviens avoir commenté Gamero.
Mais Strasbourg, tu les as fait en Ligue 2 du coup aussi ? Ou c'était en Ligue 1 ?
Gamero, Strasbourg, je suis en train de taper en même temps.
Non, il me semble que c'est en Ligue 1. Je pense que Gamero. J'ai un doute.
Ça fait 2005-2008 avec Strasbourg. Non, bah nous on est monté en mai 2008. Grenoble est monté en mai 2008 avec. Enfin, en Ligue 1. Et du coup, ben, quand j'ai commenté des rencontres face à Strasbourg avec Gamero, c'était avant, et donc c'était en Ligue 2. Strasbourg aussi, hein, des belles ambiances. Mais, tu vois, après, je suis allé à Boulogne-sur-Mer, il y avait aussi le chant de début de match. Donc, c'est pas que j'ai pas envie de ressortir un stade, mais il faudrait que vraiment j'y réfléchisse, tu vois, que ça me prenne une heure pour faire les pour les contre. Là, comme ça, tu vois, j'ai à Bordeaux aussi, tu vois, il y avait des beaux chants. Donc, mais voilà, ouais, je, même Jean Laville à Guignon, ça me fait triper, quoi. bon, il y en a qui vont trouver que c'est naze, mais...
Ah, c'est un club mythique, Guignon.
Ah ouais, non, mais moi, j'ai kiffé, tu vois, Guignon. C'est quand il... Ouais, aussi, bah, dans les souvenirs de foot, Guignon face au PSG, tu vois, c'est une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, je sais pas, quoi, mais...
Coupe de la Ligue, très mauvais souvenir personnel.
Ah ouais, parce que t'es, ouais, t'es un... Ah, donc, tu vois, moi je suis, tu vois, dans ces cas-là, je suis du côté de Guignon.
Ouais, non, ouais, pour, quand c'est le PSG, il n'y a pas d'autre côté qui tient.
Mais par contre, alors souvent, les mecs me demandent, quand je suis en déplacement, tu vois, où on... de plusieurs jours pour découvrir une ville, etc., un stade. Et puis, je fais aussi les déplacements de supporters, enfin, les duplex avant les matchs de Champions League ou d'Europa League pour l'ambiance, tu vois, 3 heures avant le coup d'envoi. Et souvent, on me dit, ouais, mais... Enfin, tu vois, parce qu'on me voit avec les Rennais ou les Parisiens, on me dit, ah, mais t'es Rennais ou quoi ? Je fais, non, mais je suis pas Rennais, je suis Grenoblois. Mais la transition, en fait, elle est là pour dire que les Rennais et les Parisiens en déplacement, c'est vraiment quelque chose. Je sais que ça va pas faire plaisir à mes meilleurs potes qui est supporter de Marseille. Je vais taire son nom parce que lui m'a dit, non, c'est vrai, je dois avouer quand même, les Parisiens en déplacement, ils en voient. Et je sais pas si à Marseille, il a le droit de dire ça. Mais ouais, les Parisiens, l'année dernière, Manchester United, PSG, enfin, je parle même pas du match, hein, je parle de l'avant-match, tu vois. Dans les rues, le cortège pour aller au stade, même là, quand il y a eu PSG Dortmund à huis clos, enfin, je mate
quand j'entends les vidéos, elles sont folles.
Pote Marseille, d'ailleurs, se paye ma tête, il me dit, mais c'est quoi, les gars, c'était la Coupe du Monde ou quoi pour vous? Tu vois, enfin, il me dit, ouais, c'est démesuré, hein, c'est n'importe quoi, on a cru que vous avez gagné la Coupe du Monde. Mais attends, quand même, ok, peut-être que c'est démesuré, mais c'était l'apocalypse. Tu peux le dire, quoi, tu vois. Bon, t'auras toujours les supporters qui voudront pas reconnaître la belle vérité concernant leurs pires ennemis, mais ouais, vraiment, ça me scotche, quoi. Les supporters du PSG, et à chaque fois que je fais un déplacement avec eux, il y a une pure ambiance. Je suis pas parisien, tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Hein.
Bah. Ouais, bah, tu vois, moi j'étais. J'étais. J'étais abonné. Avant de venir vivre à Londres, j'étais abonné pendant 5 ans, je crois. Et quand je suis parti vivre à Londres, j'ai eu les. J'ai gardé mon abonnement pendant 2 ans, je pense. Je m'en servais absolument pas, mais en fait je m'en suis servi deux fois quand Paris est parti jouer à Manchester City pour le quart de finale qu'on paume lamentablement là-bas avec un, je sais plus, 5-3-2 ou un 3-5-2, je sais plus, de Laurent Blanc, incroyable. Et le match d'après, enfin c'était l'Emirates, match de poule avec Emery, on fait 2-2 là-bas alors qu'on doit gagner le match à peu près 1000 fois, et à chaque fois on était dans le stade. Enfin, moi, je parlais même pas en dehors parce que j'avais pas de contact parmi les mecs qui faisaient le déplacement ni rien. Donc je rejoignais les supporters au moment de rentrer dans le stade.
Surtout les Mirais, ils avaient dû retourner. Déjà,
on était, voilà, on entendait que les supporters du PSG, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'assez cool. À Arsenal, les mecs, ils nous demandaient de continuer de chanter. Ah ouais, bah les mecs, je me souviens de mecs qui disaient « Allez, continuez de chanter et tout !» Les mecs d'Arsenal, tu vois, nous disaient ça parce que... ouais, parce que les Mirais, bah là, ils se passaient... Il se passait rien, quoi, c'était très mort, et je dis pas ça parce que j'ai de l'amour pour Tottenham aussi, tu vois, mais ouais, c'est un peu le stade, tu vois, on parlait de cette première ligue assez aseptisée dans les tribunes, tout ça, je trouve que l'Emirates,
ouais,
c'est
moi
le stade
souvent quand t'as des mecs qui vont en Angleterre, ligue, je vais aller à Londres, je viens de faire un match et tout, ouais, je vais aller à l'Emirates,
quoi,
je leur dis non, les gars, tu t'en auras pas pour ton argent, quoi. À la limite, fais une métro puis va à Watford plutôt parce que alors ouais, t'as envie de voir un club connu internationalement, on va dire, mondialement, mais pour moi ça vaut pas le coup d'aller à l'Emirates, de payer 80 balles et t'as pas d'ambiance, quoi. Donc je l'avais dit d'ailleurs dans le reportage, tu vois, c'est pas parce qu'on est diffuseur de la première ligue que il faut pas être, faut pas, tu vois, faut survendre le truc. J'avais dit non, ça vaut pas le coup, quoi. C'était Lismousset d'ailleurs qui m'avait passé une place, donc j'étais bien content. J'avais dit ouais, ne dépensez pas plus de 30 balles pour aller dans ce stade, quoi. Donc mais c'est clair que les Parisiens, franchement, je le soir, souvent, quand je rentre, tu vois, c'est 2h du mat, tu rentres après ton match, ben, je me passe toutes les vidéos en boucle, des chants, tu vois, qu'ils ont. Enfin, ouais, moi, j'aime les pétards, les fumilles, quoi. Dès que je peux en filmer, j'en filme. souviens, sur le PSG Dortmund, ils n'ont pas pu passer les images pendant que j'étais en duplex de ce que j'avais filmé juste un petit peu avant, quand il y a le passage du car des Parisiens. Mais je veux dire, et c'est le long, enfin, c'est entre la porte d'Auteuil et quand tu veux aller à Boulogne, je ne sais pas comment s'appelle ces trucs, quoi, ça borde un peu Roland-Garros, enfin, certains, voilà. Mais ouais, je crois que j'ai jamais vu autant de fumis. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire ouais, mais attends, à l'OM, il y en a. Oui, oui. Non, mais en tout cas, sur ce que j'ai fait moi là, ce soir-là, c'était incroyable. Et même faire des supporters parisiens, donc à Manchester, dans le tramway, dans les rues. Enfin, c'est clair. Les Rennais, tu vois, le déplacement à Arsenal, le cortège. Et puis les Anglais, ils applaudissent quand ils voient des belles ambiances. Je veux dire, même si t'es supporter adverse, moi je me souviens des Anglais dans Londres, quand les Rennais y passaient, ils leur faisaient coucou, ils les applaudissaient, quoi. Donc ça, c'est aussi un truc que... Alors ça fait longtemps que je suis pas allé dans un stade en France en tant que supporter, mais que j'avais pas quand j'y étais. Alors bien sûr, en Angleterre, je pense que c'est comme chez nous, t'as le démon quand tu perds, mais il y a une sorte de « Ok les gars, vous avez le droit de nous chambrer parce qu'on a perdu, vous avez été plus fort », tu vois ce que je veux dire.
Oui, ouais, je vois très bien, j'ai vécu ce sentiment avec Tottenham justement une fois.
Ouais. En France, on va s'embrouiller.
Ouais, c'est évident, c'est...
On va partir en insulte, mais en Angleterre, non, voilà, tu... Tes petits gestes de branlette, ils vont balancer, ils vont balancer des chants, tu vois... enfin, je veux dire, c'est pas remasterisé, mais des chants retournés pour se payer un peu ta tête, tu vois, ils vont changer les versions. Bon, moi je comprends pas trop à chaque fois parce que j'ai un faible niveau d'anglais, quoi, mais j'aime bien quand ça termine par a piece of shit.
c'était exactement le chant auquel je pensais quand tu en parlais. Ouais, c'est vraiment, c'est pour un joueur, ou c'est pour un joueur, c'est pour une équipe qui gagnait. Et moi, ce chant là, je l'ai entendu. J'ai eu avec mon premier boulot à Londres, qui était pour une marque célèbre de casque audio qui sponsorisait Chelsea. J'avais pu aller voir Chelsea Tottenham. C'était l'année où Leicester gagne, et c'est le match en fait où Tottenham perd le titre. Et parce que, en gros, il n'y avait plus que Tottenham qui était en course avec Leicester.
Course, ouais.
Et ils gagnent 2-0 à la mi-temps. Stamford Bridge est mort, il n'y a pas un bruit. Et finalement, ils remontent 2-2. Et là, c'est la fête dans le stade, et j'avais un seum assez important ce jour-là. Et là, dans la rue, même quand je suis rentré, que je suis reparti dans le métro, tout ça n'arrêtait pas de chambrer dans tous les sens.
Ouais, ça je kiffe. En Angleterre, quand je repars dans les stades, mais c'est clair, les mecs, c'est d'un quai de métro à l'autre et tout, mais c'est énorme.
Parce qu'il y a, on parle beaucoup de Tottenham et Arsenal en termes de rivalité, mais rivalité. Tottenham et Chelsea, c'est aussi très très tendu comme rivalité. C'est différent, mais et je pense que ça date, je la connais pas assez bien, mais je pense que ça date aussi des années 70-80, où Chelsea avait des hooligans clairement d'extrême droite, et que Tottenham avait un public avec une réputation un peu fausse d'avoir un public avec une grosse communauté juive notamment. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui a aidé à rapprocher les supporters des deux équipes. Mais ouais, c'est deux clubs qui se détestent très très fort. Et donc quand il y en a un qui peut bien emmerder l'autre, généralement ça peut. Et en plus, Chelsea donc fait 2-2 sur ce match-là, prive Tottenham du titre, mais ils terminent 11e la saison. C'est l'année après leur titre où ils sont complètement écroulés.
Ouais, ils avaient rien à jouer, quoi.
Et ils terminent 11e, un truc comme ça. Et j'avais vraiment le seum très très fort. Du coup, ouais, je voulais remonter un peu ton parcours. Donc après, quand t'as arrêté de commenter Grenoble, t'es monté à Paris, et là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu bosses avec Orange TV, c'est ça?
Ouais, alors en fait, il faut savoir que j'ai pas commencé dans la radio, etc. En fait, à la base, je bossais en ressources humaines dans une banque. Et en parallèle, tu vois, je commentais à France Bleu Isère ou à Radio France. D'ailleurs, Radio France, j'ai commenté du rugby et du hockey. Mais je me souviens de mon premier match de hockey, mec. J'ai pas vu le palais, quoi. Donc j'étais à la ramasse et j'avais pas le vocabulaire. En fait, tu vois, ça s'appelle la balustrade qui entoure la patinoire. Et à moi, les mecs vont là-bas fighter. Et je me souviens, je trouve plus mes mots et je dis « Oh, ils sont près de la petite murette !» Tu sais, ça fait un mètre de haut, tu vois, la balustrade, la patinoire. Ouais, bref, mon boss qui était mort de rire, bref. Donc en fait, à la base, je bossais dans une banque. Et tous les week-ends, je commentais un match de Ligue 2. Et puis parfois, je faisais des extras. Je faisais aussi du rugby et du hockey. Et j'ai fait ça pendant 4 ans, en fait. J'ai alterné. Où, tu vois, si jamais tu avais un match de Coupe de France en semaine, etc., je prenais un jour de congé. Et si c'était loin, quoi, qu'il fallait aller à Reims, et puis je rentrais dans la nuit de Reims pour être le matin à la banque ou quand j'avais un partiel que j'étais étudiant, tu vois. Et en fait, pendant 4 ans, j'ai fait ça en fait en doublon, et la radio et la banque. Et en France, alors maintenant, j'ai lu des articles où ça annonce les gens qui font plusieurs boulots, plusieurs activités. Mais tu vois, en 2006-2010, et surtout qu'en France, on aime bien te mettre dans des cases, la radio me disait « ouais, il faut que tu choisisses », la banque me disait « ouais, il faut que tu choisisses ». Et puis bon, bah, un jour de 1er septembre 2010, je dis « allez, je vais vivre mon rêve », j'ai posé un congé sabbatique et je suis monté à Paris pour tenter ma chance. Et en fait, à Paris, quand j'étais à Grenoble, donc, j'avais fait des maquettes. Quand t'es journaliste, t'envoies des maquettes, t'envoies pas des CV, donc t'envoies des extraits de tes commentaires. Et puis je bossais aussi un peu sur Télé Grenoble dans l'émission, tu vois, l'émission des sports, genre chaque semaine, lundi soir, le débrief. T'avais un gars du journal qui venait, Dauphiné Libéré, un gars d'une radio, un gars de France 3, puis on donnait tous notre avis autour de la table, tu vois, les spécialistes. C'était l'after foot Grenoble, quoi. personne ne veut une chaîne locale, quoi, à moins de lunettes. Bon, et bref, en tout cas, j'avais fait aussi des extraits de ces interventions-là. J'avais envoyé une maquette à l'équipe, à Infosport et à Orange. Infosport m'avait dit « on ne recherche pas de présentateur » et l'équipe et Orange Sport m'ont dit « viens faire des essais ». Et j'y suis allé, je suis allé à l'équipe en premier. On m'a fait faire un essai. En fait, on fait présenter un journal d'information sportive, tu vois. C'était l'époque des chaînes d'info de sport en continu. T'as un flash toutes les 10 minutes. Enfin, avant, il y avait pas mal de chaînes, mais elles sont toutes en train de fermer en ce moment. Je fais un journal sur l'équipe et tout, de 10 minutes. Enfin, tu vois, t'avais un petit truc sur le Tour de France, un petit truc de rugby, etc., quoi, en conditions directes. Et le lendemain, je vais sur Orange Sport, pareil, ils me font faire la même chose, j'écris un petit texte. Et puis à la fin, je dis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain sur l'équipe TV pour une prochaine édition. est-ce que moi, je vais te faire mon essai à l'équipe TV, tu vois, tu sais, j'avais ça en tête, puis t'étais. Enfin, moi, j'étais provincial, quoi. Je venais à Paris. J'étais complètement stressé déjà dans la vie. En fait, je suis assez stressé et assez timide. Les gens ne croient pas parce qu'on me prend toujours pour un fou. Mais et je me souviens que la régie a éclaté de rire, quoi. Et je me suis dit, je suis parti. Je me suis dit, c'est mort, tu vois. Le mec, il va me dire, mais attends, c'est qui ce fion, quoi. Je lui donne sa chance. Ça mobilise une équipe quand même de faire un essai, etc., de faire des tests. Les mecs qui viennent en régie, la caméraman, maquilleuse, machin et tout. Enfin, et puis je fais un essai sur Orange Sport et je suis foutu de dire merci. Je suis foutu de balancer. Ouais, merci à tous. On se retrouve très vite sur l'équipe TV. Bon, bref, finalement, le boss n'en a pas tenu compte. Et il se trouve que c'est plutôt sur Orange Sport que j'ai démarré l'aventure et où j'ai fait mes armes. D'ailleurs, je fais un aparté très rapide, quoi. Pour tous ceux qui n'ont pas fait d'école de journalisme, je vous conseille quand même de tenter le coup puisque j'en ai pas fait et j'arrive aujourd'hui à faire ce que j'aime. Et puis, n'hésitez pas à passer par les petites radios ou on va dire, forcément, Orange Sport, c'était une petite chaîne que Canal. Mais Orange Sport, ils m'ont donné la possibilité de faire sujet et sous différentes formes. C'est-à-dire qu'avec eux, j'ai fait du duplex, je me suis trouvé à commenter de la natation, à présenter combat de boxe de Mormec à Las Vegas. Alors moi, tu vois, je tenais l'émission en France, il y avait les commentateurs là-bas, tu vois, mais j'ai suivi le Tour de France, j'ai présenté les journaux d'information sportive, j'ai fait homme de terrain en bord de Ligue 1 quand Denis Balbir était malade ou en vacances et Florian Janton qui le remplaçait. Du coup, ça libérait la place en bord de terrain, du coup, c'est ce que je faisais. Enfin, il ne faut pas hésiter à. Enfin, moi, j'ai toujours dit mieux vaut un petit succès dans un grand succès dans un petit théâtre qu'un petit succès. Attends, vaut mieux un. Oh là là. c'est comme ma droite et ma gauche, je sais jamais où je vais. Vaut mieux un grand succès dans un petit théâtre qu'un petit succès dans un grand théâtre. Voilà, moi je cherche pas la gloire, tu vois. Souvent on me dit qu'est-ce que je veux faire, mais tu veux aller où ? Enfin, parfois tu rencontres des producteurs et j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu étonnés parce que je leur dis non, mais moi je veux juste m'éclater, quoi. Je veux dire que ce soit sur, bah, bien sûr, si TF1 il t'appelle, ça te fait plaisir, mais à la limite, moi je pourrais. Bah, en plus, j'ai déjà, enfin bref, on va dire, parfois je me suis contenté d'appels, c'est-à-dire quelqu'un du milieu qui t'appelle, et ben juste la reconnaissance en fait d'avoir, parce que bien sûr t'as les supporters ou les gens que tu connaisses, ben ils te disent ouais putain tu m'as fait triper, j'ai failli avoir une attaque cardiaque là, j'étais dans ma cuisine et je voulais aller prendre une bière, mais vu que tu commentais, à chaque fois je revenais dans mon salon parce que je voulais, alors que souvent en plus. Tu vois, t'es à 28e journée de Ligue 2, Laval-Grenoble, il se passe rien, les deux corps n'ont rien à jouer, le ballon au milieu de terrain, mais t'essayes d'enflammer, tu vois, pour retenir les auditeurs. Mais du coup, bon, t'as toujours la reconnaissance de tes proches, mais la reconnaissance des gens du milieu, surtout en France, tu vois, on ne dit jamais quand ça va bien, quand ça va, on dit toujours quand ça va pas, en fait, en France. C'est « Ah ouais, ton truc était bien, mais attends, t'aurais pu améliorer ça, tu vois. » À la différence des States où on va dire « Ah putain, c'était génial, quoi, bravo, mec, tu vois. » Et même si on le fait un peu plus, hein, c'est depuis quelques temps en France ces dernières années, mais globalement, c'est pas comme ça qu'on manage. Enfin, tu vois, c'est pas trop ce que j'ai connu. Et du coup, bah, quand tu reçois un appel d'un mec qui est placé dans une autre chaîne, bah, moi, parfois, je me suis satisfait juste d'appels, tu vois, qui me disent ouais, tu fais un bon taf, on aimerait bien travailler avec toi, qu'est-ce qui t'intéresserait ? Bah, parfois, juste de savoir que les mecs de la profession trouvaient que ce que je faisais c'était bien, bah, ça me suffisait, quoi. Et donc voilà, quand on me demande, je dis ouais, bah moi je veux juste triper, quoi. Enfin, je veux juste m'éclater, en fait.
Et donc, du coup, t'as pas.
J'ai pas besoin de. Si tu veux, si, bien sûr, si un jour j'ai une opportunité sur une super chaîne et faire un super truc,
ouais.
S'il te plaît, j'irai. Mais j'ai pas besoin de. Je veux dire, que je le fasse sur RMC Sport, sur Orange Sport, sur Canal Plus. Du moment que c'est le truc dans lequel j'ai foi et où j'essaye avec un ton et un style. De faire et rigoler les gens et qu'ils puissent retenir une information, tu vois, de rendre l'info attractive, c'est ce qui m'intéresse, quoi. En plus, tu vois, j'estime vraiment ne rien tronquer, quoi. Je veux dire, quand j'ai des galères, je le dis, quand ça vaut pas le coup, je le dis, quand c'est vraiment bien, ben je le raconte, quand un mec veut me taper, je me laisse pas taper, mais je raconte l'anecdote, donc voilà, tu vois, c'est cool aussi d'avoir carte blanche, quoi. Je suis pas trop coupé au montage, quoi. À la limite, RMC Sport, ils ont plus de couper des filles qui enlevaient leur t-shirt que moi, quoi.
C'est la fin de la première partie de cet épisode de Derrière la main courante avec Renaud Marco. Dans la deuxième partie, il nous parlera de ses pérégrinations en Angleterre pour couvrir la Première Ligue pour RMC Sport et ses meilleures anecdotes de stade là-bas. Et il nous parlera notamment d'un Boxing Day passé du côté de Motherwell en Écosse où il est devenu une légende en l'espace de quelques heures. On se donne rendez-vous pour la deuxième partie donc de Derrière la main courante. Et en attendant, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @footballcampagne. Et sur Twitter @FC_campagne. À la prochaine.